Bonjour, vous êtes bien sur CFM Radio, dans l'émission Combien de temps encore, une émission entièrement dédiée à la cause animale. Alors, aujourd'hui, on aborde le thème de l'expérimentation animale. On a l'honneur de recevoir en entretien André Ménache, qui est cofondateur de l'association Antidote Europe et également conseiller scientifique de cette association. Une association de chercheurs, de scientifiques qui se battent pour que soient mis en place les méthodes dites de substitution, méthodes alternatives aux méthodes qui font appel aux expériences animales sur les animaux. Alors, on va reprendre un point de vue primordial qui est le point de vue éthique, qui devrait suffire à abolir l'expérimentation animale. Sachant que les animaux sont des êtres vivants à part entière, que ce sont des êtres sensibles, qui éprouvent des sentiments, qui communiquent, qui ont une vie sociable, et qui arrivent à communiquer avec des individus qui ne sont pas de la même espèce qu'eux. Ceux qui ont un chien ou un chat comme compagnon peuvent tout à fait témoigner des échanges qui s'effectuent avec leurs compagnons d'une autre espèce. Chaque animal est un individu. Il y a d'ailleurs de nombreux scientifiques qui souhaitent que l'animal soit enfin reconnu, non seulement comme un être sensible, mais également comme une personne. Alors, les animaux éprouvent également du plaisir et de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Alors, cette notion justement de souffrance fait que l'expérimentation animale est une abomination en elle-même. Comment peut-on encore envoyer au XXIe siècle, tous les jours, un individu sur des séances expérimentales qui génèrent des souffrances indicibles et répétitives? Le prétexte de l'utilité est souvent invoqué. Le prétexte de l'utilité ne peut justifier une pratique qui est indéfendable sur le plan moral. Ce qui est utile pour un groupe donné n'est pas forcément légitime sur le plan éthique. Et l'utilité est toujours relative. Ce qui est utile pour tel ou tel groupe peut être néfaste pour d'autres individus. Aucune vie ne peut reposer sur la souffrance, voire la torture d'une autre vie. On est juste sur un mode de fonctionnement de la loi du plus fort. On vit dans des dictatures spécistes qui ont construit des camps de torture dans de nombreux domaines. Comment on peut justifier qu'il est concevable de faire subir à des êtres vivants sensibles ce que nous n'accepterions pas d'infliger à des êtres humains? Chaque vie, chaque existence d'un être vivant a une valeur en elle-même. Chaque individu a une valeur intrinsèque. Alors, le problème de l'expérimentation animale, c'est que ça dépasse juste le problème scientifique, c'est qu'on aborde vraiment un problème de fond, qui est le problème du spécisme. Alors bien sûr, il y a le problème de l'argent, effectivement, des lobbies, du poids des lobbies, mais pas uniquement. On accède à des points de défense de la part des humains, parce que là, on touche à une notion bien particulière, qui est la notion de spécisme et de supériorité, de soi-disant supériorité de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. Le spécisme est donc la principale cause de tous les maux subis par les animaux dans nos sociétés. Les espèces et les individus qui les composent ont leur façon d'appréhender le monde qui sont toutes aussi valables les unes que les autres. Les animaux ont des modes de communication, ils ont une vie émotionnelle, affective. Il n'y a plus aucune justification possible au fait d'exploiter, de torturer d'autres individus sous prétexte qu'ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine. Si on veut donner un peu une définition du spécisme, on peut dire que c'est un mode de discrimination négative fondée sur l'espèce. Le spécisme, c'est lorsqu'une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine, estime qu'elle peut exploiter, asservir, torturer, tuer les autres espèces. Le spécisme, c'est par rapport à l'espèce ce que le racisme est à l'échelle de la discrimination entre les races. Il procède exactement du même mode de fonctionnement. Le spécisme, c'est lorsqu'une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine, impose sa domination sur les autres espèces et leur inflige des traitements injustifiables sur le plan éthique. L'état de fait instauré par la loi du plus fort, dont abuse l'espèce humaine, est dissimulé sous des prétextes qui n'ont aucun fondement éthique et qui ne sont là que pour tenter vainement une justification pour des actes moralement injustifiables et inacceptables. Il y a une citation de Tom Regan, qui a écrit « Le droit des animaux ». Le mal fondamental est le système qui nous permet de considérer les animaux comme nos ressources, à notre disposition, pour être mangés, subir des expériences chirurgicales ou encore être exploités pour l'argent ou pour le sport. Alors, il y a aussi également une citation de Claude Lévi-Strauss. Les problèmes raciaux posés par les préjugés raciaux reflètent à l'échelle humaine un problème beaucoup plus vaste et dont la solution est encore plus urgente, celui des rapports de l'homme avec les autres espèces vivantes. Le respect que nous souhaitons obtenir de l'homme envers ses semblables n'est qu'un cas particulier du respect qu'il faudrait ressentir pour toute forme de vie. On va maintenant accueillir André Ménage, qui lui va nous parler des méthodes de substitution, qui sont des méthodes qui, dans le domaine scientifique, sont beaucoup plus fiables que les méthodes basées sur l'expérimentation animale, et qui ne font que renforcer le fait que l'expérimentation animale doit être abolie de toute urgence. André Ménage, bonjour.
Bonjour.
Encore merci d'avoir accepté cet entretien. On va dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter et présenter l'association Antidote Europe. Et ensuite, on partira sur les méthodes de substitution.
Donc, je suis André Ménage, vétérinaire et conseiller scientifique pour l'association Antidote Europe, une association créée par des anciens chercheurs du CNRS qui œuvre pour une meilleure prévention en matière de santé humaine.
D'accord. Antidote Europe, donc, il faut le souligner, est vraiment une association de scientifiques. Et c'est vraiment au niveau du domaine scientifique que vous revendiquez le développement des méthodes de substitution.
Voilà. Alors, nous apportons justement un appui aux associations de protection animale qui œuvrent dans tous les domaines de souffrance animale, y compris l'expérimentation animale. Mais ce que nous avons, c'est un argument scientifique qui n'est pas forcément connu ou répandu auprès de notre société et également auprès de nos élus. Et donc, si vous voulez, c'est cet argument scientifique qui donne la confiance, si vous voulez, aux associations de protection animale, qu'on peut argumenter contre ce que disent parfois les chercheurs qui utilisent les animaux, qui nous disent l'expérimentation animale, c'est un mal nécessaire et qu'il faut, à un moment donné, passer au test sur les animaux. Alors, heureusement qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce à nos connaissances en biologie, nous pouvons absolument remplacer les tests sur les animaux par des méthodes qui sont beaucoup plus fiables et pertinentes pour la santé humaine.
Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement il est urgent que ces méthodes dites de substitution qui devraient être les méthodes normalement appliquées et non pas de substitution, soient mises en pratique sur le critère justement de la fiabilité par rapport à l'expérimentation animale, en fait.
Alors, il y a deux grands obstacles. Le premier obstacle, c'est que la réglementation en vigueur exige de tester, par exemple, des nouveaux médicaments sur un rongeur, normalement le rat, et un non-rongeur, souvent le chien, avant de passer aux essais cliniques chez l'homme. Alors, il faut savoir que cette exigence, cette réglementation, date depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette loi, presque, est 70 ans en retard par rapport à nos connaissances actuelles. Donc, il faut absolument améliorer cette loi, la mettre à jour. Et pour cela, il faut passer par le Parlement, évidemment, pour changer cette exigence. Le deuxième problème, c'est que le modèle animal, donc l'utilisation des animaux, est considéré comme le paradigme en recherche biomédicale. Qu'est-ce que cela veut dire? c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour un chercheur d'obtenir une subvention pour tester son projet sur 100 souris que d'obtenir des cellules humaines, donc des déchets, si vous voulez, des déchets chirurgicaux humains destinés à l'incinération. Donc ça, c'est hallucinant, que c'est plus facile d'obtenir des animaux que des cellules humaines ou des déchets chirurgicaux humains. Et cela doit absolument changer.
Oui, tout à fait. Et justement, est-ce qu'on pourrait déjà voir, sans entrer bien sûr dans trop de détails, mais quelles sont les principales méthodes, les grands principes des méthodes de substitution? Je pense par exemple aux méthodes dites in vitro ou in silico. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Sachant que sur votre site, on en reparlera tout à l'heure, tout est très très bien expliqué, même pour des personnes non scientifiques. Mais comme on vous a en entretien, on en profite pour, déjà si vous pouviez nous faire un aperçu des principales méthodes de substitution, dans leurs grandes lignes en fait.
Oui, donc il faut sortir du principe que si on veut étudier des maladies humaines, il faut étudier du matériel humain et il faut étudier les humains de façon non invasive, donc sans faire mal à personne. Et si on veut étudier des maladies des chiens, eh bien, il faut étudier des chiens. Donc, ça, c'est le premier principe de base qui est très, très logique. Le deuxième principe, donc, je l'ai évoqué, c'est de ne pas nuire. Ça veut dire, il faut pas prendre des animaux ou même des personnes en bonne santé et les rendre malades ou les exposer au risque. Afin d'étudier une thérapie ou une nouvelle thérapie, il faut étudier des personnes ou des animaux déjà malades et obtenir un maximum d'informations et de prélever des données sans faire mal à l'individu afin de mieux comprendre et mieux étudier la maladie qu'on veut étudier. Et donc, à ce moment-là, on peut passer au laboratoire et donc étudier d'abord, par exemple, des cellules, si on parle de la médecine humaine, donc étudier des cellules humaines. Alors, il est possible aujourd'hui d'obtenir des cellules humaines à partir des banques de tissus ou, comme je l'ai dit, des déchets chirurgicaux, des biopsies. Donc, on peut obtenir des tissus humains. Ça, c'est la première chose. Et puis, on passe à une étape un peu plus complexe. Alors, ça peut être des tranches d'organes. Donc, soit des organes qui ont été donnés à la science, ou des autopsies ou des biopsies. Cela veut dire qu'on étudie le fonctionnement de plusieurs types de cellules ensemble, donc pas uniquement un type de cellule. Ensuite, on peut étudier ce que l'on appelle organes sur puce. Alors, organes sur puce, c'est utiliser des cellules d'origine humaine de plusieurs organes. Donc, si on pense quand on avale un médicament, donc ça passe d'abord par l'estomac et l'intestin, donc on peut obtenir des cellules humaines issues de l'intestin. Après, ce médicament va être absorbé par notre intestin et il va passer dans la circulation sanguine, et là on peut utiliser du sang humain, donc du sang humain, donc issu par exemple de banque de sang. Et ensuite, par exemple, du tissu des reins ou du foie, parce que ce médicament va passer à travers tous ces organes. Et donc, on peut faire, si vous voulez, on peut relayer toutes ces petites groupes de cellules pour faire semblant d'un humain sur puce, si vous voulez. C'est microscopique, c'est très très petit, mais c'est fonctionnel. Alors, évidemment, cela ne peut pas remplacer l'humain vivant complexe entier. Et ce n'est pas ce qu'on dit d'ailleurs. De la même façon qu'un ordinateur ne peut pas remplacer un système vivant complexe entier. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ces méthodes-là, qui évoluent de plus en plus, sont plus fiables que les tests sur les animaux. D'abord parce qu'ils utilisent du matériel humain, et deuxièmement parce que ce sont des tests en étapes. Donc on ne se fie pas uniquement à un test sur des cellules ou un seul test sur des ordinateurs. il est très important de comprendre que ce sont des tests en étapes afin d'éliminer un maximum de faux résultats positifs et de faux résultats négatifs. Donc, on va résumer en disant que les méthodes disponibles aujourd'hui pour remplacer les animaux ne sont pas prédictifs à 100%. Ils sont peut-être prédictifs à 60%, 70%, mais par rapport aux tests sur les animaux qui sont moins fiables que 50%, c'est certainement beaucoup mieux.
D'accord. Et ça évite la souffrance qui s'ensuit par rapport aux tests.
Évident, oui.
Voilà. Et en plus, au niveau voilà, des résultats, la fiabilité est de toute façon plus grande au niveau des méthodes de substitution, même si, comme vous le dites, pour l'instant, elles ne sont pas forcément fiables dans tous les domaines à 100%, mais elles sont de toute façon plus fiables que les résultats par l'expérimentation animale.
Oui.
D'accord. On va... Alors déjà, on a un bon aperçu, je crois, des méthodes de substitution. Je le répète, sur votre site Antidote Europe, pour des personnes non scientifiques, il y a des études très approfondies et très claires de toutes ces méthodes. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller sur votre site pour vraiment avoir plus qu'un aperçu, hein, vraiment un développement, une précision quant à ces méthodes. On va juste faire une pause musicale et puis on reprend l'entretien juste après.
I tried.
Vous êtes bien sûr CFM Radio. Dans l'émission Combien de temps encore, une émission dédiée à la cause animale. On reprend donc notre entretien avec André Ménache de l'association Antidote Europe. Donc on vient de voir les différents types de méthodes de substitution. Est-ce qu'il y a des domaines où elles sont vraiment fiables, pratiques, voilà, où elles ont un degré de fiabilité plus important que dans d'autres domaines au niveau de la recherche?
Ben déjà, dans le test pour les produits cosmétiques, vous avez des tests qui ont été scientifiquement validés et approuvés par les autorités. Et donc, par exemple, des tests sur la peau. Et là, nous avons vraiment des tests dits in vitro qui remplacent l'animal. Alors, c'est largement une question d'informer le public et ensuite de mobiliser le public pour exiger que l'industrie remplace de plus en plus ces tests. Il y a un très très bel exemple de cela, ça concerne le Botox. Donc le Botox contient la toxine botulique, c'est la substance la plus toxique connue à la planète. Et donc les chercheurs et l'industrie, pendant des années, nous a raconté que ce serait impossible de remplacer les tests sur les souris pour homologuer, pour mettre ce produit sur le marché, parce qu'il fallait absolument tester sa puissance avant de le mettre sur le marché pour les humains. Juste pour vous donner une idée de sa toxicité, un petit flacon d'un 1 ou 2 millilitres qu'on va utiliser dans une clinique cosmétique va tuer 500 souris. Donc c'est un produit, une substance très très toxique. Et donc, il n'y avait pas question de tenter de remplacer les tests sur les souris. En fait, la souris était utilisée comme une éprouvette vivante, tout simplement. Et donc, c'était facile pour l'industrie d'utiliser les souris en tant qu'éprouvette vivante, jusqu'à ce que une association de protection animale aux États-Unis a lancé une campagne contre le fabricant du Botox aux États-Unis et grâce à une forte mobilisation de l'opinion publique, le fabricant a mis la main dans la poche et a développé une méthode substitutive pour remplacer les souris. Alors, cela démontre la puissance et l'importance d'informer le public et de mobiliser le public. Parce que aussitôt que le fabricant s'aperçoit que ses actions vont baisser ou qu'ils vont perdre de l'argent, eh bien, je peux vous dire que tout de suite, ils réagissent, parce que c'est comme ça que l'industrie fonctionne. Et donc, ils ont développé une méthode substitutive pour remplacer des milliers de souris. Alors, il faut se poser la question, si nous possédons aujourd'hui la technologie pour remplacer les tests sur des souris pour la substance la plus toxique connue à la science, on est certainement capable de remplacer les tests sur les animaux pour des substances beaucoup moins toxiques, par exemple des médicaments. Alors, ce qui nous empêche, c'est à ce moment-là, c'est la réglementation, parce que les industriels vont nous dire, on veut bien remplacer les tests sur les animaux, mais on est obligé de passer sur des animaux avant de passer aux essais cliniques. Et donc là, la différence entre l'industrie cosmétique, par exemple, et l'industrie pharmaceutique, c'est dans l'industrie cosmétique, le consommateur peut choisir entre des produits testés ou non testés sur des animaux. Et plus les gens choisissent et achètent des produits non testés, plus l'industrie cosmétique va se diriger vers des produits non testés sur les animaux. Alors, on n'a pas ce choix avec les médicaments, parce que forcément, tout médicament est testé sur des animaux à cause de la réglementation. Et donc, pour faire avancer les choses, il faut absolument modifier, changer cette réglementation. Et une façon de le faire, c'est d'exiger la création, par exemple, d'une commission d'enquête parlementaire pour étudier la validité du modèle animal. Ça veut dire, est-ce que l'animal peut prédire l'effet d'un médicament ou d'une substance chimique sur le corps humain? Eh bien, les données que nous avons aujourd'hui, nos connaissances, nous permettent de dire que non, aucun animal est capable de prédire l'effet d'un médicament ou d'une substance chimique chez l'homme. Et donc, c'est là où il faut agir. Mmh, et mmh. aussitôt que cette prise de conscience ou ces connaissances sont comprises par le grand public et que le grand public se mobilise, eh bien, à mon avis, on verra le même résultat, le même bon résultat que nous avons constaté avec le Botox.
Sachant que, en plus, voilà, les méthodes dites de substitution ont un taux de fiabilité bien supérieur aux méthodes qui font appel à l'expérimentation animale.
Et le problème, un problème, c'est que les autorités, la loi n'exige pas, n'oblige pas les industriels d'utiliser des méthodes déjà validées, donc des méthodes de substitution déjà disponibles et reconnues scientifiquement. L'industriel peut choisir de les ignorer et c'est quasiment impossible de les obliger de le faire parce que même si une association de protection animale aurait les moyens de faire un procès, d'emmener l'industrie au tribunal, ça coûtera très très cher, ça pourra durer des années et finalement c'est à mon avis c'est beaucoup plus performant de mobiliser plutôt l'opinion publique pour faire changer les
la
choses.
La loi et faire changer la loi, oui. Et alors, on en reparlera tout à l'heure, c'est par rapport à votre site, mais on va quand même en parler tout de suite, c'est que cette demande de commission d'enquête parlementaire, la pétition est en ligne sur votre site. Oui. Donc, on ne peut qu'encourager les auditeurs à aller signer cette pétition pour que les choses évoluent enfin au niveau de l'expérimentation animale.
Alors, il existe plusieurs pétitions à ce sujet. Heureusement, et je dirais que si on fait le total, il y aurait 500 000 personnes déjà en France qui soutiennent la demande d'une création d'une commission d'enquête parlementaire. Donc c'est tout simplement une question de traduire cette volonté, de mobiliser cette volonté pour justement appuyer sur nos élus pour que eux ils lancent cette commission d'enquête parlementaire.
Au niveau de justement des pétitions, après cette commission d'enquête parlementaire peut aller jusqu'au niveau européen ou est-ce qu'elle reste pour l'instant juste au niveau national?
Alors il y avait une pétition, plus qu'une pétition, une initiative citoyenne européenne signée par plus d'un million de citoyens européens. Et en 2015, le Parlement et la Commission européenne nous a reçus. Donc, il y avait une audition au Parlement européen. Et malheureusement, toutes nos propositions, y compris des propositions très modestes, par exemple, justement, l'application de méthodes substitutives déjà validées par l'industrie, toutes nos propositions ont été rejetées par la Commission. Et donc, cela nous a convaincus qu'il serait peut-être plus propice d'agir au niveau national de l'État et pas au niveau de l'Union européenne, parce que les lobbies sont très, très puissants. Parce que vous savez, à Bruxelles, il y a environ 15 000 lobbyistes industriels. Et pour nous, d'envoyer un ou deux lobbyistes au Parlement européen, ça coûte déjà cher. Alors contre ces 15 000, c'est impossible. Donc on a changé notre stratégie et donc la stratégie actuelle, c'est d'essayer de lancer une commission d'enquête parlementaire en France et également dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais nous sommes en France, donc on parle de la France.
Stop. Déjà au niveau national, que cette évolution puisse enfin voir le jour. On refait une toute petite pause et ensuite on reprend tout de suite l'entretien.
Yeah.
Vous êtes toujours sur CFM Radio, dans l'émission Combien de temps encore, une émission dédiée à la cause animale. On reprend donc tout de suite notre entretien avec André Ménache de l'association Antidote Europe. Justement, au niveau des pays, au niveau déjà mondial et puis peut-être européen, est-ce qu'il y a des pays, alors peut-être déjà, ben voilà, on va voir, est-ce qu'il y a des pays au niveau mondial qui ont déjà, qui mettent en pratique les méthodes dites de substitution, quels sont ces pays et qui vraiment mettent l'accent sur cette évolution?
Alors, tristement, la réponse est que très peu de pays pratiquent l'utilisation de méthodes substitutives et également peu de chercheurs s'investissent pour la simple raison que la majorité des subventions de l'État et des organismes privés est dédiée à l'expérimentation animale. Je peux vous donner un chiffre de 98% des subventions allouées ou octroyées à la recherche biomédicale seront plutôt pour la recherche animale et 2% seront pour le développement de méthodes substitutives. Donc il faut comprendre cet enjeu très très important, qu'avec ce manque de fonds, oui, c'est très difficile, très très difficile de faire avancer, d'évoluer et de développer des méthodes de substitution. Donc il faut la changer aussi. Mais ce que je peux vous dire, en tant qu'utilisation d'animaux dans l'Union européenne, eh bien malheureusement la France avec l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les plus grandes utilisateurs d'animaux.
Et avec une... Je pense qu'en France, en plus, avec une absence complète de volonté de changer quoi que ce soit, en fait. On est ancré dans, voilà, dans un schéma qui fonctionne, qui ronronne bien, et voilà. Et pourquoi changer? Donc le problème, il y a cette espèce d'habitude, d'engourdissement qui fait que rien ne change.
Eh bien, il faut absolument éveiller les esprits. Parce que il n'y a pas, pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un public bien informé et qui ensuite se mobilise. Et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste, parce que je pense que l'opinion publique est plus forte que la corruption, est plus forte que les lobbies industriels.
D'ailleurs, je pense que vous l'avez au niveau des, vous faites de plus en plus de conférences en université au niveau de l'accueil du public. Il y a un accueil qui est de plus en plus favorable, en fait, par rapport... Parce que c'est souvent un public qui connaît... Enfin, il y a encore des personnes qui pensent que l'expérimentation animale a complètement disparu, ou bien que, de temps en temps, mais les animaux sont endormis et puis vont se réveiller gentiment. Enfin, il y a aussi cette méconnaissance des pratiques sur les animaux. Il y a encore des personnes qui pensent que ça n'existe plus.
Absolument, et c'est une des... devoir d'Antidote Europe, c'est d'informer le public, d'informer le grand public et en même temps les élus. Parce qu'en même temps, donc beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'expérimentation animale. Et donc nous proposons des formations, par exemple, aux militants, pour que justement quand ils sont face au grand public, au cours de tenues de stand, par exemple, qu'ils puissent mieux répondre aux gens. Et éventuellement, s'ils n'ont pas des réponses, eh bien, Antidote Europe est tout à fait prête à répondre à ces gens-là. Tout ce que nous avons besoin, c'est l'adresse mail et la question de la personne concernée. Et les gens peuvent s'adresser à notre site mail et nous sommes toujours prêtes à répondre à ces gens, à leur apporter des données scientifiques.
Oui, rediriger quand vraiment une question est trop pointue au niveau scientifique, on peut toujours rediriger sur votre site ou par mail directement. Comme ça, la personne a directement la réponse, en fait. Au niveau des conférences, vous notez une évolution par rapport aux étudiants, une évolution positive par rapport justement à cette demande d'évolution?
Oui, je dirais que de plus en plus, nous sommes invités, nous sommes sollicités par des universités pour par exemple, des débats contradictoires ou tout simplement pour des présentations. Et ce qui est intéressant, c'est que Parfois, des étudiants m'interpellent après la conférence en me disant ben, vous savez, vous avez ce que vous avez dit me paraît très très logique et très très rigoureusement scientifique. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a si peu de gens comme vous, si vous avez tellement raison? Et donc j'explique, je dis ben c'est très simple, l'explication est très simple, parce qu'il faut trouver des gens avec quatre critères. Le premier critère, donc des personnes avec des connaissances scientifiques, et donc dans l'idéal un médecin, un vétérinaire, un pharmacien. Deuxièmement, quelqu'un qui est à jour avec ce qui se passe dans le monde, tous les développements, toutes les nouvelles découvertes, etc. Et donc ça veut dire que un médecin ou un vétérinaire qui travaille à plein temps, eh bien, cette personne-là n'a pas 2 à 3 heures à consacrer tous les jours pour être à jour, parce que c'est le temps que moi je consacre tous les jours, justement, pour être à jour. Le troisième critère, si vous voulez, c'est être bon communicateur. Donc, nous avons par exemple des médecins qui seront à la retraite, qui seront tout à fait prêts à nous aider, mais malheureusement, ils ne savent pas bien s'exprimer ou ils ont un problème de communication. Et le quatrième critère, c'est d'être financièrement indépendant. Mmh. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, j'ai des collègues universitaires qui sont opposés à l'expérimentation animale, mais qui sont subis à ce qu'on appelle l'intimidation institutionnelle. Mmh. Cela veut dire que s'ils osent parler contre leurs collègues qui pratiquent l'expérimentation animale, eh bien, ils vont très vite se trouver dehors. Et donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de trouver des gens qui possèdent tous ces quatre critères. Et c'est la raison principale pour laquelle il n'y a pas des centaines ou des milliers de médecins et des vétérinaires opposés à l'expérimentation animale. La plupart n'ont simplement pas les connaissances. Un médecin ne sait pas que le chimpanzé, par exemple, est immunisé contre le sida, les hépatites, le paludisme et souffre de différents cancers à les nôtres. Ce sont des choses qu'il faut apprendre. Et c'est ce que j'apprends pendant 40 ans. Et donc, j'essaye de maintenant, à mon tour, apporter ces informations à mes collègues, à mon entourage, aux militants, éventuellement aux élus.
D'accord. Justement, au niveau de... Il y a aussi un autre problème qui rejoint ce que vous venez de dire. C'est le problème de la longueur du processus de validation. Mais c'est un tout. C'est parce que, étant donné que les lois ne sont pas encore modifiées, on demande des processus de validation extrêmement longs pour ces méthodes. Donc leur mise en place est tellement longue que... voilà, je crois que ça peut arriver jusqu'à... Enfin, peut-être que je me trompe, mais 10 ou 15 ans pour certaines...
Alors, il s'agit de moyens. Parce que si nous n'avons pas les moyens de faire valider une méthode, ça peut traîner, comme vous dites, et en moyenne, ouais. Ça peut prendre jusqu'à 7 ans. Et ça va coûter jusqu'à 1 million d'euros. Donc, ce n'est pas évident de faire valider. Mais le processus de validation... ne fonctionne pas parce que aujourd'hui, avec la technologie qui évolue si rapidement, si oui. vite, une méthode qui va prendre 7 ans à être validée, eh bien, cette technologie sera déjà dépassée oui. au jour où elle sera appliquée. Et donc, c'est une question d'argent à nouveau, parce que dans l'exemple du Botox, eh bien, c'était quelque chose de compliqué. Scientifiquement, un défi scientifique, et pourtant l'industrie a trouvé les moyens de remplacer le test sur les animaux pour la substance la plus toxique connue à la science. Donc je retourne toujours à cet exemple, parce que ce n'est pas une question aujourd'hui de technologie, c'est une question de communication,
oui, de volonté.
Donc communiquer ce message dont nous avons parlé aujourd'hui au grand public, aux élus, forcer, pour obliger l'industrie d'abandonner les animaux, le modèle animal qui ne fonctionne pas, qui fait souffrir les animaux inutilement, et de passer aux méthodes dignes des technologies et de la du moral, si vous voulez, du 21e siècle.
Oui. Est-ce qu'il y a des laboratoires qui... je pense par exemple au consortium PETA, qui a essayé de mettre en place, je crois, un ensemble de... Je ne sais pas si c'est des laboratoires ou qui fonctionnent vraiment que sur des méthodes de substitution. Est-ce que ça existe? Est-ce que...
Il existe en France et en Suisse peut-être une entreprise qui utilise uniquement des méthodes sans animaux, donc des méthodes in vitro, etc. Donc c'est rarissime, quoi.
D'accord, d'accord. Au niveau du, on va faire juste une pause et après on parle de votre du site parce que je crois qu'il y a des choses du moins importantes à consulter. On fait une petite pause et on redémarre ensuite. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News had just come over, we had 5 years left the science. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he wasn't lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. Saw toys and boys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. Had to cram so many things to store. I think she would have killed me. A soldier with a broken arm fixed a stair to the wheels of a Cadillac. Hot Melvin kissed the feet of a priest, and the queer threw up at the sight of that. And I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. It was cold. Vous êtes bien sur CFM Radio, dans l'émission Combien de temps encore? Et on reprend l'entretien avec André Ménage de l'association Antidote Europe. On va donc conclure par quelque chose de très important, c'est au niveau de votre site. Vous en avez parlé au cours de l'entretien, mais je crois qu'il faut vraiment souligner, il y a une pétition en particulier très importante qui est donc sur l'enquête parlementaire. On va définir un petit peu les choses importantes que vous conseillez de consulter en priorité sur votre site pour les auditeurs.
Dans un premier temps, il y a une pétition pour la création d'une commission d'enquête parlementaire qui est disponible également sur mesopinions.com et sur le site d'Antidote Europe. Également, quelque chose qui interpelle beaucoup le grand public, c'est dans notre rubrique « Informez-vous ». Là, vous avez une trentaine d'entretiens avec des médecins et des chercheurs opposés à l'expérimentation animale. Et ce que nous avons fait, c'est d'interviewer des différents spécialistes, donc psychiatres, chirurgiens, génétiques, beaucoup de domaines, justement pour montrer qu'il est possible de remplacer l'utilisation de l'animal dans chaque spécialité, y compris une urgentiste. Donc, je pense que ça répond à beaucoup de questions de gens, et souvent nous mettons en avance ces entretiens sur dans nos réseaux sociaux, et les gens apprécient beaucoup.
Et il y a aussi la liste des associations qui ne pratiquent pas du tout d'expérimentation animale, qui est une liste qui est sans cesse mise à jour.
Alors, vous parlez peut-être des listes des substances, des produits cosmétiques non testés sur les animaux.
Et puis, enfin, la liste aussi par rapport aux dons.
Alors, nous avons effectivement, nous avons créé un tract pour informer les gens quelles associations caritatives à caractère médical subventionnent ou ne subventionnent pas la recherche sur les animaux. Et c'est également quelque chose qui est très apprécié par le grand public, parce que le grand public est très généreux avec ses dons et n'est pas toujours conscient du fait que certaines associations caritatives à caractère médical subventionnent la recherche animale. Et donc ce tract est disponible à la fois sur notre site, mais aussi les gens qui veulent, pour des tenues de stand, nous sommes tout à fait disponibles à vous envoyer, à vous transmettre des tracts.
Ah oui, l'avoir sur papier, c'est bien même de l'imprimer pour l'avoir sur soi. Après, bon, sachant que, bon, en précisant que c'est mis à jour sur le site régulièrement, en fait.
Oui.
Vous parliez aussi d'une liste de produits non testés.
Alors, les produits non testés, en ce qui concerne les produits cosmétiques, ce n'est pas sur notre site. Il existe plusieurs listes issues par différentes associations. Et donc, il faut plutôt se renseigner auprès de ces associations comme One Voice, comme PETA, etc.,
ouais,
qui proposent des listes, des labels, etc.
D'accord. Je pense qu'on a fait le... Alors, est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter ? Je pense qu'on a fait un tour assez développé, assez précis. Est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels on ne serait pas intervenu et qui vous semblent importants ?
Je pense que c'est l'occasion de vous remercier pour ce que vous faites, parce que justement, ce genre d'entretien est une occasion pour nous permettre de nous exprimer, d'informer de plus en plus de monde. Et voilà, donc c'est surtout un remerciement.
D'accord, merci beaucoup de mon côté. Mais je crois que c'est important, effectivement, d'informer les gens. Mais déjà que l'expérimentation animale, ça existe toujours, qu'il y a plus de 2 millions, d'après les chiffres officiels, donc on peut compter plus, ne serait-ce qu'en France. Je crois qu'il y a 12 millions en Europe. L'Amérique ne donne pas ses chiffres. Quant à la Chine, n'en parlons pas. Voilà, c'est des millions d'animaux qui sont sacrifiés... à petit feu, hein, parce que c'est pas une séance qu'ils subissent, c'est plusieurs séances, voire plus, sur plusieurs mois. Donc ça existe toujours. Non, les animaux ne sont pas endormis, ou très peu souvent, et qu'il existe d'autres méthodes de substitution, que c'est à nous, c'est à chacun maintenant, de faire en sorte que les choses évoluent, comme vous l'avez très bien expliqué. C'est que tant que chaque personne n'aura pas conscience que c'est à elle d'agir et de faire poids sur les gouvernements pour que les lois changent, c'est à nous d'agir. Voilà. Sinon, la volonté politique ou scientifique, elle est en léthargie et ça n'évoluera pas. Donc, c'est vraiment à nous d'agir. Et pour ça, je crois qu'il faut vraiment que les personnes soient informées au maximum. Je crois qu'on est vraiment là-dessus. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde au niveau d'informer absolument les gens.
Oui, on est d'accord, tout à fait.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup de cet entretien. Et je vous dis de toute façon à très bientôt et bon courage.
Merci.
Cette émission, combien de temps encore, est terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast sur cfmradio.fr à la rubrique podcast, à la rubrique donc combien de temps encore. Je vais vous mettre de façon détaillée le site d'Antidote Europe et les liens, également les liens des diverses associations sur lesquelles on peut trouver le maximum de renseignements ou de pétitions contre l'expérimentation animale. Bonne journée à tous et à bientôt.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.